Et il est là, on l'a joint au bout du fil à l'instant, Olivier Beauregard, bonjour.
Salut.
Plusieurs choses au menu aujourd'hui. Tout d'abord, on revient sur Jonathan Drouin qui, la fin de semaine dernière, aurait pas entendu son réveil matin puis est arrivé en retard à une réunion d'équipe.
Écoute, quelle histoire. Puis ça fait couler beaucoup d'encre au courant des derniers jours. Puis c'est normal parce que Jonathan Drouin, il est de plus en plus controversé à Montréal pour plusieurs raisons. La première, les gens trouvent qu'il performe pas à la hauteur des attentes depuis son arrivée. Puis je te dirais qu'ils ont pas tort. Là, si tu regardes juste sa saison de cette année, il y a 2 buts. C'est pas une grande année pour lui. Il y a eu des blessures, il y a eu des problèmes de santé mentale également. Puis si on respecte ça, puis on comprend ça. Mais je pense que avec cet événement-là qui s'est déroulé en fin de semaine du côté de Tampa Bay, où Jonathan Drouin affronte son ancienne équipe, le Lightning. Puis finalement, il cloue au banc tout le match parce qu'il a raté la veille le meeting d'équipe parce qu'il n'a pas entendu son cadran. Écoute, mon grand, là, ça fait 9 ans que tu es dans la Ligue nationale. Tu es un joueur établi, tu es un joueur vétéran. Puis tu te permets de manquer une rencontre d'équipe. Que tu arrives 2 minutes, 3 minutes, 1 heure en retard, c'est le principe. C'est quoi le message que tu envoies à tes coéquipiers puis le reste de l'organisation en tant que vétéran? C'est un message un peu de détachement, c'est un message un peu de manque de sérieux. Puis c'est exactement ce que Jonathan Drouin a fait. Puis j'ai été vraiment content de la réaction de Martin Saint-Louis. Puis je vais donner un coup de chapeau également à la réaction pour le département des communications du Canadien de Montréal qui n'ont pas essayé de cacher Jonathan Drouin après le match. Non seulement Martin Saint-Louis l'a habillé, il l'a laissé assis au banc tout le match. Non seulement ça, mais également les communications de l'équipe l'ont sorti après le match pour répondre aux questions des médias. Ça, c'est coup de chapeau parce que faut que ce gars-là réponde de ses actes dans une situation comme ça. Ça sert à rien d'essayer de le couvrir, ça sert à rien d'essayer de le cacher. Puis j'ai aimé ça. Souvent, on critique le manque de transparence chez les organisations professionnelles. Ben ça, là, ça a été un gros, gros, gros coup de chapeau pour le département des communications. Puis comme je dis, j'ai adoré la réaction de Martin Saint-Louis. Peu importe t'es qui dans l'équipe, peu importe ton statut, si tu respectes pas le couvre-feu, les meetings d'équipe, peu importe, tu vas payer pour ces actions-là. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Martin Saint-Louis a agi en très, très bon père de famille, par exemple, parce qu'après le match, il a dit, écoutez, Jonathan, j'ai une excellente relation avec lui, sauf que le message doit être compris de tout le monde. Si tu arrives en retard, malheureusement, il y a des conséquences. Il dit, j'ai lancé le message, Jonathan est copé, on tourne la page, on s'en va, on passe au prochain appel. C'est correct. Je pense pas qu'il y ait de la haine ou de l'amertume entre Jonathan et Martin Saint-Louis. Au contraire, là, je pense que les deux se respectent. Mais ça me prouve, par exemple, une chose, c'est que Jonathan Drouin a plus d'affaires à Montréal, Sébastien. Là, ça s'en vient de plus en plus ridicule. À chaque fois, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans son cas. À chaque fois, il y a une situation X, Y, Z qui fait en sorte que Jonathan peut pas être là, peut pas, peu importe, là. Je vais te dire une chose. Moi, pour lui, pour son bien-être personnel, pour la suite de sa carrière, s'il veut pas finir à jouer en Europe, Jonathan Drouin doit quitter Montréal cet été. J'ai pas l'impression que le Canadien a l'intention de lui offrir un contrat, même si c'est un contrat d'un an. Pas l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont le goût d'y donner un contrat. Puis lui, il le sait, là. Tu sais, il disait cette année, moi, je veux me battre pour un contrat l'an prochain. Puis présentement, là, avec 2 buts, puis je sais pas combien de matchs, là, honnêtement, j'ai pas regardé ses statistiques.
Mais ça met pas la négociation sur ton bord, mettons.
Vraiment pas. Puis c'est même pas alléchant pour les équipes de te signer puis de t'offrir un contrat. Il y a des équipes peut-être qui vont lui offrir des essais cet été. Mais écoute, il y a rien de sûr dans son cas. Alors, c'est malheureux parce que Jonathan Drouin était pressenti pour être un joueur d'impact dans la Ligue nationale, un joueur talentueux. Puis ça reste que c'en est un. C'est un gars qui a une vision de jeu et a des mains incroyables. Mais malheureusement, il est pas capable d'avoir une constance dans cette ligue-là pour plusieurs raisons. Alors, en tout cas, ce petit événement-là, là, vous allez me dire, c'est pas si grave que ça, arriver 2 minutes en retard à une rencontre d'équipe. Peut-être pas, mais c'est beaucoup encore une fois sur les épaules de Jonathan Drouin. Dans une situation où c'est déjà pas facile à Montréal, moi, je pense que pour lui, là, on a hâte que la saison se termine, puis on a hâte pour lui que son partenariat avec le Canadien de Montréal se termine aussi.
Bon, on verra comment la saison va se terminer, puis entre les deux saisons, s'il se passe quelque chose. Mais on va suivre, je ne vais pas dire ses frasques, là, mais les accros qu'il y a une fois de temps en temps. Restons dans le monde du hockey, allons chez les Blackhawks, où là, c'est l'équipe au complet qui n'a pas voulu porter ce chandail arborant l'arc-en-ciel là, pour soutenir les communautés LGBTQ.
Oui, exactement. On a décidé dans le match contre les Canucks de Vancouver, parce qu'on devait le porter pendant l'échauffement, de ne pas le faire, et c'est l'organisation qui l'a décidé. Tu sais, on l'avait vu là, chez certaines équipes, il y avait des joueurs notamment qui avaient décidé, des joueurs russes surtout, là, qui avaient décidé de ne pas porter le chandail parce que c'était contre leurs valeurs, contre leur religion, peu importe la niaiserie qu'ils ont sorti. Là, on sait que c'était arrivé, mais c'était pas chez une équipe complète, c'était chez des individus. Moi, ce qui me déçoit, c'est que là, les Hawks de Chicago, une équipe, une des six équipes originales de la Ligue, une équipe qui est là, qui montre l'exemple, dont tout le monde regarde, a décidé de ne pas porter le chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+, parce que on dit que ce sont des raisons de sécurité relativement aux joueurs russes. Écoute, moi, là, j'ai un gros doute là-dessus. Là. Parce que là, ce qu'on dit, là, c'est que des gars comme chez les Hawks, là, Zaitsev, Kourachev et Khudobin, qui ont des origines russes, on pourrait les mettre en danger par rapport aux lois de leur pays en abordant ce chandail-là. Je comprends pas trop là, comment ça peut être dangereux pour eux qui résident aux États-Unis, comment ça peut devenir un enjeu pour eux, parce qu'on dit c'est la propagande LGBTQ+, qui a été, rappelez-vous, là, criminalisée là, du côté de... si vous voulez, du côté de la Russie, on dit on veut pas créer justement de précédent pour nos joueurs, on veut pas que nos joueurs se soient dans une situation difficile qui mette en danger leur famille. En tout cas, écoute, je sais pas à quel point je comprends là qu'il y a un gouvernement russe qui est des années, des décennies en arrière de plusieurs autres nations dans le monde. Mais il y a une chose qui est certaine, par exemple, puis ça, j'ai de la difficulté à l'accepter. Portez vos culottes à un moment donné. Assumez ce que vous voulez faire. La Ligue nationale se tire les bretelles, puis hey, nous, on veut être inclusif, on veut que tout le monde se sente inclus à travers la Ligue nationale. Puis pourtant, on fait des moves de la vieille école comme ça, où ce qu'on dit, ben savez-vous quoi, on va protéger nos joueurs, puis on mettra pas le chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça n'a aucun bon sens. À la limite, là, faites comme certaines autres équipes ont fait. Ces trois joueurs-là peuvent pas le porter pour des raisons XYZ. Sacrez-moi ça sur le banc, là. Puis vous autres, portez-les pendant l'échauffement. Parce qu'à un moment donné, il y a un problème. C'est le message qu'on envoie. En tant qu'organisation, en tant que ligue également, on est en train de lancer un message que pour nous, ben si ça fait pas l'affaire du monde, les convictions, ça n'a pas besoin d'être démontré, ça n'a pas besoin d'être promis, si tu veux. Et ça m'énerve parce que ça montre le visage à deux faces de la Ligue nationale en disant, ben nous autres, on supporte la communauté LGBTQ+, mais selon certains standards, à certaines occasions seulement. Écoute, c'est soit que tu es all-in ou soit que tu n'y es pas du tout. Puis moi, j'aimerais mieux que la Ligue nationale ne porte aucun chandail, ne valorise pas, ne se pète pas les bretelles en disant qu'ils valorisent et qu'ils veulent être inclusifs, que de faire ce qu'ils ont fait hier avec un peu plus tôt cette semaine, dans la Ligue nationale, avec les Hawks de Chicago, puis de dire, ben non, mettez-les pas, puis mettez votre chandail habituel.
Parce que la Ligue, elle s'en est pas mêlée plus qu'il faut. Les Blackhawks ont dit non. c'est ça, puis la Ligue a rien dit, là.
C'est trop une grosse patate chaude, là. Je veux dire, Gary Bettman n'a pas d'intérêt à aller se mettre les mains là-dedans. Mais une chose qui est certaine, par exemple, c'est qu'il va avoir des comptes à rendre éventuellement. C'est que quand on va annoncer d'autres soirées comme ça à travers la Ligue nationale, on va surveiller de près ce qui se passe. Puis, OK, à quel point c'est vraiment pas juste une campagne, une campagne pour essayer de courtiser un peu les amateurs et de dire « Regardez comment qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est inclusif. » Un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Ou que les babines suivent les bottines. Je connais pas trop l'expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, ça m'a tellement déplu, ça m'a tellement fâché que je me suis dit encore une fois, on manque de crédibilité, on manque une opportunité de faire passer un message fort, un message important, c'est-à-dire que peu importe la situation, peu importe l'enjeu politique, on va respecter les convictions qu'on a décidé d'établir dans la Ligue nationale, puis c'est-à-dire être inclusif, montrer du support à la communauté LGBTQ+, au lieu de faire à semblant qu'on est si bon, puis si fin, puis si ça, mais qu'au premier petit embûche, ou parce qu'il y a des joueurs qui aiment pas trop ça, faire ça, parce que c'est pas selon leurs valeurs, bon, on décide de complètement canceller ça. Ça va à l'encontre de ce que la Ligue nationale tentait de faire, c'est-à-dire de justement être rassembleur. Pour l'instant, moi, je vois plus ça comme divisé des joueurs russes, des joueurs canadiens, des joueurs américains. Puis ça, malheureusement, ben c'est une réalité. Puis les Hawks nous l'ont démontré encore une fois cette semaine.
C'est bien malheureux tout ça. Maintenant, laissons le hockey de côté. Allons dans le monde du football et parlons de la Québécoise Catherine Reich, qui, ben, pour qui ça va bien ses affaires à Cleveland.
Écoute, moi, je suis tellement content de voir des nouvelles comme ça. Catherine Reich, qui est dans le fond, vous le savez, là, elle travaille dans la NFL. Fait partie des membres de l'organisation des Browns de Cleveland. Un peu plus tôt cette semaine, les Browns ont diffusé, si vous voulez, une vidéo sur leur chaîne YouTube où on parlait un peu de l'organisation puis de la structure organisationnelle. Et Catherine Reich, la Québécoise, ben elle fait partie de la structure et il y a vraiment eu beaucoup de bons mots à travers cette capsule-là sur elle. Écoute, tellement que l'entraîneur-chef des Browns, Kevin Stefanski, qui est un vieux de la vieille dans la NFL, a dit « Moi, là, je peux vous assurer une chose, Catherine Reich sera un jour une directrice générale dans la NFL. Elle est prête. Elle est pas non seulement prête, elle peut le faire dès demain. Tu sais, je veux dire, elle occupe déjà le poste de directrice générale adjointe avec les Browns. Et ce qu'on dit d'elle, c'est que du bon. Elle a passé par plusieurs organisations de football dans plusieurs ligues. C'est une fille qui a fait son école. Tu sais, elle a travaillé avec les Alouettes de Montréal, avec les Hurricanes de Toronto dans la Ligue canadienne de football. Elle s'est amenée dans la XFL à Tampa Bay avant de s'amener avec les Eagles de Philadelphie et maintenant occuper un poste de directrice générale adjointe avec les Browns de Cleveland. Moi, là, écoute, le message serait tellement fort. Imaginez, là, la première femme directrice générale dans la NFL serait non seulement une femme, mais serait une Québécoise. Mm-hmm. Moi, là, je trouve que c'est un message fort. Et ça prouve l'ouverture, puis c'est drôle, là, j'en parlais il y a quelques minutes à peine, l'ouverture puis l'inclusion qu'on veut faire aux femmes dans le monde de la NFL, ça, je trouve ça fantastique. Parce que c'est drôle, depuis que la NFL a décidé de promouvoir des postes et de donner des postes importants à des femmes, les autres ligues ont essayé d'emboîter le pas. Mais regardez ce qui se passe dans la Ligue nationale, par exemple. C'est encore la Ligue du Wild où les femmes occupent des postes de développement des joueurs que tu vois une fois par année dans le camp d'entraînement, mm-hmm. puis tu n'en entends plus parler. Par exemple, Marie-Philippe Poulin, oh, elle a eu une expérience phénoménale au camp du Canadien de Montréal. Elle est où présentement, elle? Elle n'est pas dans l'entourage de l'équipe du tout. On ne l'a pas revue une fois. Mm-hmm. Mais c'est ça, je vous dis. C'est facile de nommer des femmes à des postes, mais quand tu veux un véritable désir de les faire évoluer, de leur faire gravir les gestions, comme c'est le cas de Catherine Reich avec les Browns de Cleveland, ben ça, c'est chapeau à une ligue qui veut vraiment être inclusive, une ligue qui veut vraiment, justement, ouvrir les portes, défoncer les barrières, puis c'est exactement ça. Alors, non, j'ai trouvé ça super, puis si vous avez le goût d'aller voir ça, je vous le dis, c'est sur la chaîne YouTube des Browns de Cleveland. C'est un documentaire vraiment pas long, là. Écoutez, c'est un portrait de l'équipe plus qu'un documentaire, mais on a de très, très bons mots sur la Québécoise. On parle d'elle, et on l'entend également parler de son parcours. C'est Mark Chrisman, qui est entraîneur-chef des Alouettes de Montréal à une certaine époque. C'est lui qui lui a donné une chance dans d'autres ligues aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, elle en parle. C'est un peu notre fierté, c'est un peu notre joyau. Puis si jamais Catherine Reich, dans un avenir rapproché, ou disons pas trop loin, devient directrice générale dans la NFL, non seulement ça serait une première historique, mais ça serait une fierté pour les Québécois et les Québécoises, ça c'est sûr et certain.
Bon, on va surveiller son parcours, assurément. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. À la semaine prochaine.
Merci à vous, bonne journée.